Je précise juste deux éléments, puisqu'il va être question de voir et d'entendre deux mots importants dans l'évangile de Jean et dans les récits de la résurrection. Si jamais il y en a qui ne voient pas, parce que j'aurai certains slides qui seront un peu petits, voilà, n'hésitez pas dans ce cas-là à vous avancer un petit peu. Il y a encore de la place devant et vous verrez mieux, enfin, s'il y a besoin. Et puis, voilà, j'ai un défaut, c'est que je parle souvent vite. Donc là aussi, si je parle trop vite et que c'est un obstacle à votre audition, n'hésitez pas, voilà, Nicolas, à me faire signe pour que je puisse ralentir le rythme. Voilà. Mon intervention sera davantage peut-être d'histoire de l'exégèse. Et du coup, vous me pardonnerez de commencer non pas par Jean Chrysostome, mais par un point de vue d'exégèse contemporaine sur le verset en question. Voilà, donc le verset dont je vais vous parler, c'est le verset 9 du chapitre 20 de l'évangile de Jean, que je vous lirai dans quelques instants. Mais dès le départ, avant même de vous le lire, sachez que ce verset est considéré comme une glose par pas mal mais simplement sur un plan littéraire, puisqu'on a un récit où les disciples donc sont encourus vers le tombeau, au chapitre 20 de Jean, qu'il y a l'affirmation très forte sur le disciple que Jésus aimait, qu'il vit et il crut, et puis vient donc ce verset 9 qui ajoute « il n'avait pas encore compris l'Écriture et que le Christ devait ressusciter d'entre les morts ». Voilà, au jugement des exégètes contemporains, c'est vraiment un passage difficile. Je vous ai mis juste une citation de Zumstein, qui donc dit que cette glose du narrateur est fort difficile à interpréter. Comment l'ignorance des disciples peut-elle être soulignée après que la foi pascale du disciple bien-aimé a été mise en exergue? La foi pascale, c'est-à-dire le disciple bien-aimé est déjà entré par la simple considération du tombeau vide, dans une foi qui est celle qu'on attend des disciples. Comment on peut dire juste un verset plus tard qu'en fait, ils n'avaient rien compris? Alors, il y a une explication qui vient de la critique des sources, c'est-à-dire d'expliquer les différentes strates un peu de la constitution du texte au niveau rédactionnel, et qui dit que ce verset 9, il vient simplement d'une strate plus ancienne du récit, où il n'y avait pas encore l'histoire du disciple bien-aimé. Alors dans ce cas-là, on a Pierre et son compagnon qui arrivent au tombeau, qui voient le tombeau vide et qui en restent simplement à l'incompréhension. Voilà, on voit Simon-Pierre qui considère les bandelettes posées là. Et puis, on dirait, voilà, il reste dans l'incompréhension parce que il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Et de manière tout à fait naturelle, on enchaîne avec le verset 10, après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux, sans se livrer, de fait, à la moindre annonce de la résurrection. Ce qui, pour des gens qui auraient pleinement bénéficié du nouveau régime de foi introduit par Pâques, ça serait un peu surprenant qu'ils n'en parlent à personne. Voilà. Alors ça, donc, c'est l'explication plutôt par l'histoire du texte. Une deuxième explication plus sur l'état canonique du texte, donc dans son état tel qu'on le trouve dans un Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la plupart des manuscrits. Dans cette forme canonique, le récit justement, il fait apparaître une espèce de contradiction, et on peut dire que c'est la dialectique entre l'interprétation de l'Écriture et l'expérience comme source de la foi. Voilà, pas mal d'exégètes considèrent que la simple vision du tombeau, ça suffit pour susciter une foi complète chez le disciple bien-aimé. Il n'a pas besoin de l'Écriture. Le verset 9, du coup, souligne qu'il n'a pas besoin de l'Écriture, et ça rend compte du fait que c'est pas l'Écriture qui suscite la foi, mais c'est à la lumière de la foi dans le ressuscité que les disciples reliront l'Écriture. Ça, c'est une des positions un petit peu partagées par pas mal d'exégètes. Du coup, moi, ma question, ce sera comment ce passage a été compris dans l'Église ancienne. Bon, d'abord, on voit que le malaise, il est tangible déjà dans la tradition manuscrite, puisque ce verset est parfois déplacé après le verset 11. Donc, dans ce cas, c'est à propos de Marie-Madeleine qu'on dit qu'elle n'avait toujours rien compris. Ailleurs, au lieu d'avoir le pluriel, « il n'avait pas encore compris », on a un singulier. Parce que là, on sauve la proposition, puisque c'est seulement à propos de Pierre qu'on dit qu'il n'a rien compris, mais ça sauve le disciple bien-aimé. Bon, si on va chercher chez les pères de l'Église, en fait, jusqu'à la fin du 5e siècle, en fait, ils ont très peu commenté ce verset. En fait, j'ai trouvé que cette occurrence, en regardant dans Bible Index, qui recense la plupart des occurrences des premiers siècles, et donc il y a trois fois chez Jean Chrysostome, il y a Irénée qui applique ce verset à la situation des disciples au moment de la Passion. Il y a l'Ambrosiaster qui cite ce verset, mais qui semble l'appliquer à Marie de Magdala. Et puis, un pseudo-Eusèbe de Césarée, qui donc vers 340 peut-être, appliquerait bien le verset à Pierre et à Jean, mais en disant que, en fait, ce qu'ils ont cru, ou plutôt que leur manque de foi, c'est leur manque de foi par rapport aux paroles de Marie. Voilà, donc c'est pas directement par rapport à la foi pascale, mais ils n'ont pas accordé créance à ce que leur racontait Marie de Magdala. Bon, vous voyez qu'on va quand même pas très très loin avec juste ces trois passages. Et donc, je me suis tourné vers Jean Chrysostome, qui à la fois, donc il y a ces trois passages qui étaient recensés par Bible Index, mais il est aussi l'auteur d'un commentaire continu de l'évangile de Jean. Et on verra que les explications qu'il donne sur ce passage, en fait, elles sont très précieuses pour comprendre plus largement le sens de ce verset. Voilà, ça c'était la position moyenne des biblistes d'aujourd'hui. Alors, donc je vais vous proposer trois temps. Un premier temps pour regarder dans le commentaire continu de l'évangile de Jean par Jean Chrysostome, eh bien, qu'est-ce qu'il fait de ce verset. Après, on verra d'autres contextes où ce verset désigne la situation des disciples au long de la vie publique de Jésus. Et puis, je vous présenterai un intertexte, c'est-à-dire un parallèle très précieux entre deux versets de l'évangile de Jean, Jean 20, 9 et Jean 2, 22, à propos du temple de Jérusalem. Donc, commençons par le commentaire continu. Donc je vous redonne le verset 9. Il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Alors, Jean Chrysostome, il consacre trois homélies au commentaire de ce chapitre de Jean. Mais les versets 1 à 9, ils sont traités très rapidement. Moins d'une colonne de la patrologie, pour ceux qui connaissent la patrologie. Et donc, dans ce passage, Jean Chrysostome ne cite pas explicitement tous les versets. Alors, souvent, il fait une allusion ou une simple reformulation. Mais ce qui est original à propos des versets 8, donc « Il vit et il crut » et 9, ça tient à deux points. D'abord, pour l'exégète, qui est Jean Chrysostome, la foi de Pierre et du disciple bien-aimé ne fait aucun doute. Il dit par exemple « À la vue des bandelettes, ils crurent à la résurrection. C'est pourquoi, après cela, le Christ leur apparaît à eux qui avaient été convaincus ou persuadés par la vision. » Donc, ils ont tellement bien cru que même ils sont jugés dignes d'une apparition. Donc voilà, ça va dans l'attitude générale de Jean Chrysostome sur les apôtres, qui est que il fait plutôt leur éloge, qu'il est plus prompt à faire leur éloge que leur critique. Donc voilà, pour lui c'est sûr que les deux disciples à ce moment-là font un véritable acte de foi, aussi bien l'un que l'autre. Il n'y a pas d'opposition pour lui entre les deux. Et lorsqu'il reprend le commentaire au début de l'homélie suivante, il explique justement le manque de proclamation de la bonne nouvelle en disant qu'ils étaient quand même frappés de stupeur et puis que peut-être ils attendaient les autres. Donc il essaye d'atténuer un peu le côté difficile du verset 10. Mais je dirais, à travers cette explication un peu hésitante, on voit que pour Chrysostome, en tout cas, il n'y a aucune réserve sur la qualité de la foi des apôtres à ce moment-là. Mais bon, ça vous me direz, c'est un peu léger, c'est vrai, et on a quand même d'autres moments où Jean Chrysostome, dans le même commentaire du chapitre 20, va non pas citer le verset, puisqu'il n'est jamais cité, mais il va le reformuler de manière très proche, mais alors il l'applique à d'autres gens. Par exemple, donc ça apparaît en filigrane à propos de Marie de Magdala. Donc elle a dit au verset 2 « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis ». Et donc Jean Chrysostome commente « Tu vois qu'elle n'avait pas compris clairement ce qui concernait la résurrection. Mais elle croyait qu'on avait changé le corps de place, etc. » Donc là, les mots-clés, c'est évidemment elle ne savait pas encore ce qui concernait la résurrection, qui sont les mêmes mots qu'on avait tout à l'heure dans le verset, vous voyez, Oudepo, Edeisan, et puis l'idée d'anastasis. Donc il reprend la même chose à propos du verset 11, où la pauvre Marie-Madeleine reste tout en pleurs, et donc il commente, en effet la nature, bon, j'ai rajouté féminine, mais bon, c'est pas parce que je suis plus misogyne encore que Jean Chrysostome, c'est parce que une ligne avant, il a parlé du génos, du genre féminin. Donc voilà, si Marie-Madeleine pleure, c'est que donc sa nature est fragile, et qu'elle n'avait pas encore compris clairement l'idée ou les paroles, le logos, à propos de la résurrection. Et puis, à nouveau, quand elle répète « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis », que dis-tu ? Il s'adresse à Marie-Madeleine. « Tu ne comprends encore rien à la résurrection ?» Et tu imagines que le corps a été déplacé. Tu vois qu'elle n'admettait ou elle n'était capable encore de recevoir aucun enseignement qui soit élevé, c'est-à-dire un enseignement qui honore la divinité du Christ. Voilà. Alors, un autre passage qui n'est pas appliqué à Marie-Madeleine, donc c'est toujours dans le commentaire de Jean, mais juste quelques versets avant le chapitre 20, il y a le chapitre 19, me direz-vous, et plus précisément le verset 19-40, où on voit Joseph d'Arimathie et Nicodème qui ensevelissent Jésus. Et là, ça semble un petit peu surprenant. Plutôt, c'est un problème pour Jean Chrysostome, parce que certains de ses auditeurs, justement, ils en font des... Enfin, ils font beaucoup d'efforts pour ensevelir dans le luxe leurs parents, leurs proches. Et donc, Jean Chrysostome juge que c'est un luxe complètement déplacé. Et du coup... les auditeurs lui disent « Oui, mais regardez, même Jésus, on l'a enseveli aussi dans des parfums, des linges et tout. » Et voilà. Et donc il dit « Oui, mais Joseph d'Arimathie et Nicodème, bon, ils ont agi de cette manière alors qu'ils ne comprenaient pas l'idée de la résurrection. » Voilà, bon, en plus, il se trouve qu'ils n'étaient pas du cercle des apôtres, donc ils n'étaient pas, on n'avait pas le même niveau d'exigence à leur égard, mais déjà, de fait, eux n'étaient pas non plus encore capables de comprendre ce discours. Voilà. Alors, je conclue cette première partie. Si on voit donc à la fois ces différentes occurrences des expressions qui sont proches du verset 29, on voit d'abord, un, que le verset lui-même est absent du commentaire, et que dans ce contexte immédiat, donc appliqué à Pierre et Jean, enfin Pierre et le disciple bien-aimé, ce verset, Jean Chrysostome l'a évité. Il a évité de le mentionner, il a évité de l'appliquer à ses apôtres, et probablement parce que c'est un verset qui associe les apôtres à l'incrédulité, et ça, voilà, ça rentre pas dans le projet d'interprétation de Jean Chrysostome. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il a déjà dans la tête une certaine grille d'interprétation de ce verset, comme on va le voir, et dans ce cas-là, ça serait inopportun de mélanger les idées à ses auditeurs. Bon, on voit donc que le verset n'est pas présent à ce moment-là, mais que l'idée est quand même largement exprimée, mais à propos d'autres personnes. Et donc, eh bien, c'est appliqué à Marie-Madeleine, et qui est confrontée au tombeau vide ou à l'apparition des anges, en tout cas avant qu'elle ait vu le Seigneur ressuscité. Et puis, de manière plus originale peut-être, le verset est appliqué, puisque je vous ai dit que Irénée aussi appliquait ce verset à... Non, c'était l'Ambrosius Stör qui appliquait aussi ce verset à Marie de Magdala. Ce qui est plus original, c'est de l'appliquer à Joseph d'Arimathie. Comme image, on pourrait dire, d'un disciple dont le zèle est un peu intempestif, mais ça s'explique parce qu'il n'avait pas encore reçu cette... Donc le zèle n'est pas stigmatisé du fait de leur faiblesse, mais comme désignant un stade inachevé du processus d'être disciple. Puis on peut rajouter que tous ces usages sont vraiment des usages exégétiques. C'est bien pour expliquer des versets que Jean Chrysostome cite ce verset, et non pas dans le cadre d'une exhortation. Avec une réserve sur Joseph. Bon, donc, pour aller plus loin, eh bien, parce que ces quelques passages étaient un peu légers, j'ai poursuivi la piste que m'offrait Jean Chrysostome lui-même, c'est-à-dire j'ai regardé où il utilisait cette reformulation avec donc le verbe connaître, l'idée de résurrection, et puis la négation. Et on voit que, comme ça n'apparaît nulle part, ces trois mots ensemble, dans le Nouveau Testament, à part dans ce verset, on peut raisonnablement penser que quand Jean Chrysostome les utilise, il a en tête ce même champ qui apparaît dans son commentaire du chapitre 20. Donc j'ai repéré 11 autres passages qui s'ajoutent aux trois passages identifiés par Bible Index, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Globalement, on peut dire que le thème principal, c'est donc l'incompréhension des disciples qui apparaît à différents niveaux. D'abord, dans les annonces de la Passion. Dans les annonces de la Passion, donc on a un premier lieu scripturaire où l'incrédulité des disciples apparaît au grand jour, ou du moins pas tant leur incrédulité, mais le fait que Jésus leur propose un certain discours que eux sont incapables d'entendre. Donc ça c'est par exemple le verset de Matthieu 16, 21. Et donc le commentaire de Jean, c'est d'utiliser deux autres versets de l'évangile que je vous ai mis ici, Luc 18 et Marc 9, qui parlent aussi mais avec d'autres mots. Sinon vous me diriez, mais c'est la même idée. Oui, mais justement, il n'y a pas Oïda, il n'y a pas non plus Anastasis. Voilà. Donc, il utilise ces deux autres passages, il fait un petit dossier scripturaire, on pourrait dire, et donc il conclut que les disciples, effectivement, ignoraient le dessein véritable de Jésus. Bon, ils n'ignoraient pas tout, parce qu'à force de l'entendre, ils avaient quand même compris que Jésus annonçait qu'il allait mourir, mais ce qu'était cette mort, qu'il serait rapidement délivré et qu'il accomplirait d'innombrables bienfaits, cela, ils ne l'avaient pas encore compris clairement, ni ce qu'était la résurrection elle-même. Voilà. Dans ce passage-là et puis dans un autre, l'exégète associe plusieurs versets qui évoquent la même idée, c'est que les paroles de Jésus demeurent obscures pour les disciples et que l'incompréhension ne vise pas le fait qu'ils doivent mourir un jour, mais que c'est une mort qui s'ouvre à la résurrection. Un deuxième contexte, c'est ce fameux passage où les fils de Zébédée, ou alors leur maman, demandent des places d'honneur pour siéger à la droite et à la gauche du Christ lors de son retour. Alors ça, c'est un passage où Jean Chrysostome n'hésite pas à critiquer vertement les disciples. En effet, dit-il, bien qu'ils fussent apôtres, ils étaient encore dans un état bien imparfait. Voilà, et ça, cette expression reviendra dans tous les passages que je ne vais pas citer, mais qui sont parallèles, tels de petits oiseaux qui hésitent, pour ainsi dire, dans un nid, avant que leurs ailes aient pris de la force. Donc c'est l'image des disciples qui sont en train de grandir. Il faut surtout que vous sachiez une chose, c'est qu'avant la croix, ils étaient dans une grande ignorance. Voilà. Et la croix, par métonymie, c'est évidemment le geste par lequel s'ouvre le salut. Et on verra que ce n'est pas seulement la croix elle-même. Voilà, je pense que je vais sauter les deux passages suivants qui expriment vraiment les mêmes choses. Voilà, celui-là va un peu plus loin. Que nul ne se trouble en voyant les apôtres dans un état aussi imparfait, car la croix n'avait pas encore été accomplie. Là, on voit bien que la croix, en fait, c'est tout le mystère pascal, et que la grâce de l'Esprit n'avait pas encore été donnée. Si tu veux apprendre leur vertu, observe-les après cela, et tu les verras s'élevant au-dessus de toute passion. Voilà pourquoi ils dévoilaient leur faiblesse. Là, en fait, on a trois choses importantes. D'abord, donc, le moment où tout bascule, c'est non seulement la croix, mais la croix et le don de l'Esprit. Alors, soit c'est que Jean Chrysostome considère, comme Yves Simons, que c'est sur la croix que l'Esprit est déjà donné. Soit c'est parce que il étend sa vision de la croix, en fait, jusqu'au moment où Jésus rencontre les disciples et leur, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte johannique en Jean 20. Donc ça, c'est donc une première chose, c'est que c'est pas seulement la croix, mais c'est le don de l'Esprit qui va faire franchir un cap. Deuxièmement, on voit que il y a un projet pédagogique de Jésus et de l'évangéliste. L'un et l'autre, on pourrait dire, dévoile la faiblesse des disciples pour manifester justement cette rupture entre un avant et un après. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une intention finalement pédagogique dans tous ces versets qui montrent l'incompréhension des disciples avant la croix. Et puis, un troisième élément, c'est ce qu'on pourrait appeler le thème de l'abaissement pédagogique. Bon, c'est la fameuse sunc catabasis chère à Jean Chrysostome. Et, parce que dans ce dernier texte que j'ai cité, on voyait poindre l'idée que Jésus voilait sa divinité pour ceux qui n'étaient pas encore prêts à l'entendre, ce qu'on vient d'entendre chez Origène. Eh bien ça apparaît encore plus dans plusieurs homélies du commentaire sur Jean, lorsqu'il y a des phrases où Jésus évoque déjà à la fois, on pourrait dire, son état actuel, mais aussi l'économie du salut après la résurrection. Par exemple, quand il dit au verset 14, 15, 16, « Il vous donnera un autre paraclet. » Mais là, Jean Chrysostome, il dit, en fait, après la résurrection, c'est Jésus lui-même qui le fera. Donc il y a un écart, c'est le Père ou c'est le Fils. De même, à propos de Jean 14, 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Jean Chrysostome aussi fait apparaître, voilà, en fait, ce qu'on pourrait appeler un double langage de Jésus. C'est-à-dire qu'il dit des choses qui seront comprises pour une part par les disciples, mais ils le comprendront sur un plan humain. Et en fait, pour le comprendre sur un plan divin, pour avoir la pleine portée des affirmations de Jésus, notamment ce qu'il dit de magnifique sur son union avec le Père, et sur son autorité pour remettre les péchés ou pour envoyer l'Esprit, mais ça échappe encore à la compréhension. Et comment formule Jean Chrysostome ses propos ? Donc à propos cette fois-ci de Jean 14, 28, vous l'avez entendu, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors, donc Jean Chrysostome demande, mais quelle joie cela devait-il leur apporter ? Quelle consolation ? Que signifient ces paroles ? Et donc là, il introduit notre fameux verset, c'est qu'ils n'avaient pas encore compris ce qui touchait à la résurrection. Ils n'avaient pas, à son sujet, donc au sujet de Jésus, l'opinion qui convenait. Comment auraient-ils eu, en effet, une opinion conforme à sa divinité, eux qui ne savaient même pas qu'il ressusciterait ? Donc là, on voit bien Jean 20, 9, utilisé pour rendre compte de ce double niveau du discours. Voilà. Et puis, il y a deux autres cas où Jean Chrysostome, dans un cadre plutôt pastoral, élargit encore son utilisation de ce verset. C'est à propos des parents de Moïse qui sont désespérés d'avoir abandonné leur fils dans le fleuve. Et voilà, ils sont d'autant plus désespérés qu'ils ne savaient encore rien du royaume et de la résurrection. Et de même, Job, ces épreuves sont d'autant plus affligeantes ou douloureuses qu'ils ne savaient pas encore, ils ne savaient rien de clair sur le royaume des cieux et la résurrection. Je finis cette partie, puis j'enchaîne avec la dernière qui est plus brève. Donc, c'est pour dire que, en outre, Jean Chrysostome associe étroitement le verset que nous avons vu depuis le début, Jean 20, 9, avec un autre texte, Jean 2, 19, 22. Alors là, vous voyez pas tellement la photo qui est tronquée, mais c'est Jésus en train de chasser violemment les vendeurs du temple, car le verset 22, donc on a au début de ce verset, donc Jésus qui annonce qu'il va détruire le temple et le relever en 3 jours. Évidemment, les disciples ne comprennent pas. Et donc il y a le commentaire de l'évangéliste, une glose là aussi. Lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Alors ce texte, donc, il apparaît dans plusieurs passages de l'œuvre chrysostomienne. D'abord, lorsque Jean Chrysostome commente, effectivement, ce verset du chapitre 2 dans son commentaire continu. Donc là, il explique le sens des paroles de Jésus. Cette histoire de temple qui doit se relever, c'est une prophétie obscure qui sera éclairée par les événements le jour venu. Deuxièmement, Jésus refuse aux Juifs un miracle qu'ils ne sont pas encore capables de recevoir. Encore une fois, on tombe sur la pédagogie du Christ qui respecte le point où en est la liberté de l'homme. Et puis, donc là, il y a une référence au signe de Jonas aussi, qui est un troisième intertexte assez fort. Et puis, surtout, les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas ces paroles. Combien plus les Juifs, ou combien moins, si on veut, les Juifs étaient-ils incapables de les comprendre ? Il dit, pourquoi les disciples n'avaient-ils pas compris qu'ils devaient se relever d'entre les morts ? Parce que la grâce de l'Esprit ne leur avait pas encore été accordée, etc. Voilà, donc là, on voit que dans le contexte donc, de Jean 2, Jean Chrysostome dit que c'est la même idée en fait qui se retrouve, c'est que les disciples, à ce moment-là, qu'on soit au début de l'Évangile ou à la fin, en fait, sont quand même avant la croix et le don de l'Esprit Saint. Alors, cette association, elle réapparaît dans 3 autres passages. L'un, c'est un passage qui de l'épître à Olympias, donc parmi de nombreux éléments de scandale qui pourraient ébranler les croyants, que c'est un discours de consolation, eh bien, il y a le comportement des disciples qui sont déboussolés après la passion. Aussi bien les juifs que les disciples, qui vous me direz sont juifs, mais bon, enfin, ça Jean-Chrysostome ne le souligne pas, sont alors également victimes de la fable sur l'enlèvement du corps. Et Jean 29 est alors appliqué à la situation des disciples entre la croix et les apparitions. Et cependant, cette fable prévalut auprès de certains, malgré les sceaux, malgré l'éclat si grand de la vérité, car la foule ne connaissait pas la doctrine de la résurrection, à un moment où les disciples eux-mêmes n'y croyaient pas. Et donc, cite Jean 29. Bon, dans le discours sur le pain de vie, on trouve la même incompréhension. Les disciples, les juifs plutôt, ne comprennent pas le discours de Jésus qui leur dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », etc. Ils n'avaient pas non plus compris lorsque Jean-Baptiste avait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ils ne l'avaient pas compris, mais c'est normal parce qu'ils n'avaient rien compris de clair au sujet de la résurrection. Et donc là, Jean-Chrysostome associe à la fois l'incompréhension par rapport au message de Jean-Baptiste, l'incompréhension par rapport au temple qui doit être relevé en Jean 2, et l'incompréhension des disciples en Jean 29. Et puis il y a encore un troisième passage dans l'homélie 66 sur Jean que je vous passe pour arriver à ma conclusion générale, parce que je pense qu'il faut doucement y arriver. Donc ma conclusion, tirée à la fois du commentaire sur Jean, de tous ces passages sur l'incompréhension des disciples, et donc de ce rapport particulier entre Jean 2 et Jean 20, eh bien, elle tient en trois points, dont le premier a trois sous-points. Donc, vous voyez, je vais prendre la marche pour amorcer une conclusion étoffée. Avant tout, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours? Eh bien, que pour Jean Chrysostome, le verset Jean 29 exprime la situation des disciples, comme il dit, avant la croix. On pourrait dire que c'est au cours de la vie terrestre de Jésus. Ils ne comprennent pas ses paroles prophétiques, ils ne comprennent pas les annonces de la passion, ils ne comprennent pas non plus le signe de Jonas. Pour cette raison, Jésus doit s'adapter à eux. Il parle de manière obscure, et on peut dire que tout le discours de Jean 14, 15, 16, 17, même si nous, il nous semble quand même déjà assez explicite, il demeure un discours, on pourrait dire, à deux niveaux. Et pour une part, on pourrait dire que les Juifs, à leur tour, sont presque excusés. Ce qui est intéressant, parce que souvent on dit que Jean Chrysostome est profondément anti-juif. On peut dire qu'il réhabilite pour une part le peuple juif en disant que, certes, ils ne comprennent pas, mais les disciples non plus, même après avoir vécu avec Jésus et même après la crucifixion, ils ne comprennent encore rien au message du Christ. Plus précisément, ce verset illustre l'ignorance et le découragement des disciples durant la passion et après la crucifixion. Vous voyez, on se rapproche quand même narrativement du moment où, de la résurrection. Et donc, on pourrait dire que c'est le découragement typique, et c'est là qu'on peut avoir des usages pastoraux qui viennent s'accrocher. C'est voilà un verset qui exprime la situation de tout homme confronté à l'épreuve insurmontable qui met en échec sa vie. Et puis, encore plus spécifiquement, mais j'avoue que le seul passage qui le disait clairement, c'est en fait des fragments sur Jérémie qui sont d'une authenticité contestée, donc je vous le dis un peu malgré tout comme ça. Tout ça, ça pointe quand même vers le moment où les disciples sont au matin de Pâques, mais avant le don de l'Esprit, et où, certes, ils ont reçu l'annonce de Marie-Madeleine, mais où leur foi demeure, on pourrait dire, en chemin. Bon, je suis d'accord que c'est pas hyper explicite tout ça, mais néanmoins, l'ensemble des versets cités font quand même écho à ce moment-là de l'Évangile. Et Jean Chrysostome, dans certains passages, pourrait avoir un peu oublié son commentaire sur Jean et Pierre, puisque, avec un peu de distance, il fait de ce verset un signe même de l'incrédulité. Bon, ces trois conclusions, en fait, elles ont un intérêt particulier, c'est que, après avoir préparé tout ça, juste hier, je refaisais un peu de recherche sur l'exégèse contemporaine, grâce à des amis qui m'avaient redonné le site Bibil, et L'un des articles les plus récents sur ce verset aboutit en fait à trois conclusions. Le premier, c'est que ce verset évoque la foi inachevée des apôtres, qui certes ont bien dans la tête l'horizon de résurrection, par exemple de Lazare, une réanimation, mais qui n'ont pas encore la possibilité de croire à la résurrection en Pascal. Donc on peut dire que l'accent mis sur le côté inachevé de la foi par Jean Chrysostome reflète l'un des traits majeurs de l'interprétation de ce verset. Un deuxième élément, c'est que le vrai pivot, c'est pas la résurrection et c'est pas le tombeau vide, mais c'est les apparitions personnelles et l'intelligence des Écritures. C'est ces deux points qui font passer, selon cet exégète contemporain, de la foi inachevée à la foi complète. Or, c'est exactement ce que dit Jean Chrysostome lorsqu'il évoque, en fait, derrière le lien de croix, le mystère complet qui va jusqu'au don de l'Esprit. Et puis surtout, ce que remarquait cet exégète allemand, c'était que on ne peut comprendre ce verset si on cherche à tout prix à l'opposer au verset qu'il précède et qu'il suive. Là, on arrive à une espèce de contradiction. En revanche, si on regarde tout l'évangile, si on reprend tout l'évangile, notamment Jean 2, 19 à 22, alors c'est clair le sens véritable de Jean 29. Et je trouve intéressant que Jean Chrysostome lui-même, sa véritable exégèse de ce verset, elle se trouve pas de fait quand il commente Jean 20, mais à travers toute son œuvre, lorsque il cite ce verset à propos d'autres passages. Et donc le troisième point du troisième point de ma conclusion est le suivant. Que en évitant de commenter ce verset au moment où cela aurait été logique, Jean Chrysostome évite le piège dans lequel sont tombés de nombreux commentateurs de ce texte, qui est d'en forcer le sens pour résoudre à tout prix la contradiction apparente entre ce verset et son contexte immédiat. En prenant de la distance par rapport à cette difficulté, et en réalisant l'exégèse de ce verset à partir d'autres lieux exégétiques, Jean rejoint paradoxalement certains exégètes contemporains, qui retrouvent une cohérence à l'œuvre non pas dans ce chapitre pris isolément, mais dans une lecture d'ensemble de l'Évangile. Et je vais m'arrêter là, merci beaucoup.